Le Capital, livre premier, troisième section, chapitre grand 10, grand 6, lutte pour la journée de travail normale, limitation légale coercitive du temps de travail, la législation manufacturière anglaise de 1833 à 1864. Après des siècles d'efforts, quand le capital fut parvenu à prolonger la journée de travail jusqu'à sa limite normale maxima et au-delà, jusqu'aux limites du jour naturel de 12 heures, note de bas de page, ouvrez les guillemets. Il est certainement très regrettable qu'une classe quelconque de personnes doive chaque jour s'exténuer pendant 12 heures. Ajoute-t-on à cela les repas et les allers et retours de l'atelier, c'est 14 heures par jour sur 24. Trois petits points. Question de santé à part, personne ne niera, je l'espère, qu'au point de vue moral, une absorption si complète du temps des classes travailleuses, sans relâche depuis l'âge de 13 ans, et dans les branches d'industrie libres, entre guillemets, depuis un âge plus tendre encore, ne constitue un mal extrêmement nuisible, un mal effroyable. Dans l'intérêt de la morale publique, dans le but d'élever une population solide et habile, et pour procurer à la grande masse du peuple une jouissance raisonnable de la vie, il faut exiger que, dans toutes les branches d'industrie, une partie de chaque journée de travail soit réservée au repas et au déhassement. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse. Leonard Horner dans Insp of Fact Reports, 31 décembre 1841. Fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, après des siècles d'efforts, quand le capital fut parvenu à prolonger la journée de travail jusqu'à sa limite normale maxima et au-delà jusqu'aux limites du jour naturel de 12 heures, alors la naissance de la grande industrie amena dans le dernier tiers du XVIIIe siècle une perturbation violente qui emporta, comme une avalanche, toute barrière imposée par la nature et les mœurs, l'âge et le sexe, le jour et la nuit. Les notions mêmes de jour et de nuit, d'une simplicité rustique dans les anciens statuts, s'obscurcirent tellement qu'en l'an de grâce 1860, un juge anglais dut faire preuve d'une sagacité talmudique pour pouvoir décider, ouvrez les guillemets, en connaissance de cause, fermez les guillemets, ce qu'était la nuit et ce qu'était le jour. Le capital était en pleine orgie. Note de bas de page. Voyez. Judgment of M.J.H. Otway, Belfast Hillary Sessions, 1860. Fin de la note de bas de page. Dès que la classe ouvrière, abasourdie par le tapage de la production, fut tant soit peu revenue à elle-même, sa résistance commença. Et tout d'abord, dans le pays même où s'implantait la grande industrie, c'est-à-dire en Angleterre. Mais pendant 30 ans, les concessions qu'elle arracha restèrent purement nominales. De 1802 à 1833, le Parlement émit 3 lois sur le travail. Mais il eut bien soin de ne pas voter 1 centime pour les faire exécuter. Note de bas de page. Un fait qui caractérise on ne peut mieux le gouvernement de Louis-Philippe, le roi bourgeois, c'est que l'unique loi manufacturière promulguée sous son règne, la loi du 22 mars 1841, ne fut jamais mise en vigueur. Et cette loi n'a trait qu'au travail des enfants. Elle établit 8 heures pour les enfants entre 8 et 12 ans, 12 heures pour les enfants entre 12 et 13 ans, etc., avec un grand nombre d'exceptions qui accordent le travail de nuit, même pour les enfants de 8 ans. Dans un pays où le moindre rat est administré policièrement, la surveillance et l'exécution de cette loi furent confiées à la bonne volonté des « amis du commerce », entre guillemets. C'est depuis 1853 seulement que le gouvernement paye un inspecteur dans un seul département, celui du Nord. Un autre fait qui caractérise également bien le développement de la société française, c'est que la loi de Louis-Philippe restait seule et unique jusqu'à la Révolution de 1848, dans cette immense fabrique de lois qui, en France, en sert toute chose. Fin de la note de bas de page. Donc, de 1802 à 1833, le Parlement émit trois lois sur le travail, mais il eut bien soin de ne pas voter un centime pour les faire exécuter. Aussi, restèrent-elles lettres mortes. Ouvrez le guillemets. Le fait est qu'avant la loi de 1833, les enfants et les adolescents étaient excédés de travail. Ouvrez la parenthèse. Were worked, fermez la parenthèse. Toute la nuit, tout le jour, jour et nuit ad libitum. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Rip of Ins of Fact, 30 avril 1860, page 51, fin de la note de bas de page. C'est seulement à partir du Factory Act de 1833, s'appliquant aux manufactures de coton, de laine, de lin et de soie, que date pour l'industrie moderne une journée de travail normale. Rien ne caractérise mieux l'esprit du capital que l'histoire de la législation manufacturière anglaise de 1833 à 1864. La loi de 1833 déclare, ouvrez le guillemets, que la journée de travail ordinaire dans les fabriques doit commencer à 5h30 du matin et finir à 8h30 du soir. Entre ces limites, qui embrassent une période de 15 heures, il est légal d'employer des adolescents, ouvrez la parenthèse, young persons, c'est-à-dire des personnes entre 13 et 18 ans, fermez la parenthèse, dans n'importe quelle partie du jour. Mais il est sous-entendu qu'individuellement, personne de cette catégorie ne doit travailler plus de 12 heures dans un jour, à l'exception de certains cas spéciaux et prévus, fermez les guillemets. Le sixième article de cette loi arrête, ouvrez le guillemets, que dans le cours de chaque journée, il doit être accordé à chaque adolescent dont le temps de travail est limité, 1h30 au moins pour les repas, fermez le guillemets. L'emploi des enfants au-dessus de 9 ans, sauf une exception que nous mentionnerons plus tard, fut interdit. Le travail des enfants de 9 à 13 ans fut limité à 8 heures par jour. Le travail de nuit, c'est-à-dire d'après cette loi, le travail entre 8h30 du soir et 5h30 du matin, fut interdit pour toute personne entre 9 et 18 ans. Les législateurs étaient si éloignés de vouloir toucher à la liberté du capital dans son exploitation de la force de travail adulte, ou, suivant leur manière de parler, à la liberté du travail, qu'ils créèrent un système particulier pour prévenir les conséquences effroyables qu'aurait pu avoir en ce sens le Factory Act. Ouvrez les guillemets. Le plus grand vice du système des fabriques, tel qu'il est organisé à présent, est-il dit dans le premier rapport du Conseil central de la Commission du 25 juin 1833, c'est qu'il crée la nécessité de mesurer la journée des enfants à la longueur de celle des adultes. Pour corriger ce vice sans diminuer le travail de ces derniers, ce qui produirait un mal plus grand que celui qu'il s'agit de prévenir, le meilleur plan à suivre semble être d'employer une double série d'enfants, fermez les guillemets. Sous le nom de « système des relais », ouvrez la parenthèse, System of relays. Ce mot désigne en anglais, comme en français, le changement des chevaux de poste à différentes stations. Fermez la parenthèse. Ce plan fut donc exécuté de telle sorte, par exemple, que, de 5h30 du matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi, une série d'enfants entre 9 et 13 ans fut attelée au travail, et une autre série de 1h30 de l'après-midi jusqu'à 8h30 du soir, et ainsi de suite. Pour récompenser, messieurs les fabricants, d'avoir ignoré de la façon la plus insolente toutes les lois promulguées sur le travail des enfants pendant les 22 dernières années, on se crut obligé de leur dorer encore la pilule. Le Parlement arrêta qu'après le 1er mars 1834, aucun enfant au-dessous de 11 ans, après le 1er mars 1835, aucun enfant au-dessous de 12 ans, et après le 1er mars 1836, aucun enfant au-dessous de 13 ans, ne devrait travailler plus de 8 heures dans une fabrique. Ce « libéralisme » entre guillemets, si plein d'égards pour le capital, méritait d'autant plus de reconnaissance que le docteur Farrar, Sir A. Carlyle, Sir C. Bell, M. Guthrie, etc., en un mot, les premiers médecins et chirurgiens de Londres, avaient déclaré dans leur déposition comme témoins devant la Chambre des communes que tout retard était un danger periculum in mora. Le docteur Farrar s'exprima d'une façon encore plus brutale. Ouvrez les guillemets. Il faut une législation, s'écria-t-il, pour empêcher que la mort puisse être infligée prématurément sous n'importe quelle forme, et celle dont nous parlons, ouvrez la parenthèse, celle à la mode dans les fabriques, fermez la parenthèse, doit être assurément regardée comme une des méthodes les plus cruelles de l'infliger. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Legislation is equally necessary for the prevention of death in any form in which it can be prematurely inflicted, and certainly this must be viewed as the most cruel mode of inflicting it. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, le docteur Farrar s'exprima d'une façon encore plus brutale, ouvrez les guillemets. Il faut une législation, s'écria-t-il, pour empêcher que la mort puisse être infligée prématurément sous n'importe quelle forme, et celle dont nous parlons, ouvrez la parenthèse, celle à la mode dans les fabriques, fermez la parenthèse, doit être assurément regardée comme une des méthodes les plus cruelles de l'infliger. Fermez les guillemets. Le Parlement, réformé entre guillemets, qui, par tendresse pour messieurs les fabricants, condamnait pour de longues années encore des enfants au-dessous de 13 ans à 72 heures de travail par semaine dans l'enfer de la fabrique, ce même Parlement, dans l'acte d'émancipation où il versait aussi la liberté goutte à goutte, défendait de prime abord aux planteurs de faire travailler aucun esclave nègre plus de 45 heures par semaine. Mais le capital, parfaitement insensible à toutes ces concessions, commença alors à s'agiter bruyamment et ouvrit une nouvelle campagne qui dura plusieurs années. De quoi s'agissait-il ? De déterminer l'âge des catégories qui, sous le nom d'enfants, ne devaient travailler que 8 heures et étaient de plus obligés à fréquenter l'école. L'anthropologie capitaliste décréta que l'enfance ne devait durer que jusqu'à 10 ans, tout au plus jusqu'à 11. Plus s'approchait le terme fixé pour l'entière mise en vigueur de l'acte de fabrique, la fatale année 1836, plus les fabricants faisaient rage. Ils parvinrent en fait à intimider le gouvernement à tel point que celui-ci proposa en 1835 d'abaisser la limite d'âge des enfants de 13 à 12. Sur ces entrefaites, la pression du dehors, pressure from without, entre parenthèses, devenait de plus en plus menaçante. La Chambre des communes sentit le cœur lui manquer. Elle refusa de jeter plus de 8 heures par jour des enfants de 13 ans sous la roue du juggernaut capitaliste, et l'acte de 1833 fut appliqué. Il ne subit aucune modification jusqu'au mois de juin 1844. Pendant les 10 ans qu'il régla, d'abord en partie, puis complètement le travail des fabriques, les rapports officiels des inspecteurs fourmillent de plaintes concernant l'impossibilité de son exécution. Comme la loi de 1833 permettait aux seigneurs du capital de disposer des 15 heures comprises entre 5h30 du matin et 8h30 du soir, de faire commencer, interrompre ou finir le travail de 12 ou de 8 heures par tout enfant et tout adolescent à n'importe quel moment, et même d'assigner aux diverses personnes des heures diverses pour les repas, ces messieurs inventèrent bientôt un, ouvrez les guillemets, nouveau système de relais, fermez les guillemets, d'après lequel les chevaux de peine, au lieu d'être remplacés à des stations fixes, étaient attelés toujours de nouveau à des stations nouvelles. Nous ne nous arrêterons pas à contempler la perfection de ce système parce que nous devons y revenir plus tard. Mais on peut voir du premier coup d'œil qu'il supprimait entièrement la loi de fabrique, n'en respectant ni l'esprit ni la lettre. Comment les inspecteurs auraient-ils pu faire exécuter les articles de la loi concernant le temps de travail et les repas, avec cette tenue de livre si complexe pour chaque enfant et chaque adolescent? Dans un grand nombre de fabriques, la même brutalité et le même scandale reprirent leur règne. Dans une entrevue avec le ministre de l'Intérieur, 1844 entre parenthèses, les inspecteurs de fabrique démontrèrent l'impossibilité de tout contrôle avec le système de relais nouvellement mis en pratique. Note de bas de page. Rip of Inns of Fact, 31 octobre 1849, page 6, fin de la note de bas de page. Cependant, les circonstances s'étaient grandement modifiées. Les ouvriers manufacturiers, surtout depuis 1838, avaient fait du bill des 10 heures leur cri de ralliement économique, comme ils avaient fait de la charte leur cri de ralliement politique. Même des fabricants qui avaient réglé leur fabrique d'après la loi de 1833 adressèrent au Parlement mémoire sur mémoire pour dénoncer la « concurrence » entre guillemets « immorale » des « faux frères » entre guillemets, auxquels plus d'impudence et des circonstances locales plus favorables permettaient de violer la loi. De plus, en dépit du désir que tout fabricant avait de lâcher bride à sa cupidité native, leur classe recevait, comme mot d'ordre de ses directeurs politiques, de changer de manières et de langage à l'égard des ouvriers. Elle avait besoin, en effet, de leur appui pour triompher dans la campagne qui venait de s'ouvrir pour l'abolition de la loi sur les céréales. On promit donc non seulement de, ouvrez les guillemets, doubler la ration de pain, fermez les guillemets, mais encore d'appuyer le bill des 10 heures, lequel ferait désormais partie du règne millénaire du libre-échange. Note de bas de page. Rip of Inns of Fact, 31 octobre 1848, page 98. Fin de la note de bas de page. Dans ces circonstances, il aurait été par trop imprudent de venir combattre une mesure seulement destinée à faire de la loi de 1833 une vérité. Menacés enfin, dans leur intérêt le plus sacré, la rente foncière, les aristocrates furieux tonnèrent philanthropiquement contre les, ouvrez les guillemets, abominables pratiques, fermez les guillemets, note de bas de page. Cette expression « nefarious practices » entre guillemets se trouve également dans le rapport officiel de Leonard Horner, ouvrez la parenthèse, Rip of Inns of Fact, 31 octobre 1859, page 7, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, menacés enfin dans leur intérêt le plus sacré, la rente foncière. Les aristocrates, furieux, tonnèrent philanthropiquement contre les « abominables pratiques » entre guillemets de leurs ennemis bourgeois. Telle fut l'origine du « Factory Act additionnel » du 7 juin 1844 qui entra en vigueur le 10 septembre de la même année. Il place sous la protection de la loi une nouvelle catégorie de travailleurs, savoir les femmes au-dessus de 18 ans. Elles furent mises à tous égards sur un pied d'égalité avec les adolescents. Leur temps de travail fut limité à 12 heures, le travail de nuit leur fut interdit, etc. Pour la première fois, la législation se vit contrainte de contrôler directement et officiellement le travail de personnes majeures. Dans le rapport de fabrique de 1844-45, il est dit ironiquement, ouvrez le guillemets. Jusqu'ici, nous n'avons point connaissance que des femmes parvenues à majorité se soient plaintes une seule fois de cette atteinte portée à leurs droits. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Rip, etc. For 30 September 1844, page 15, fin de la note de bas de page. Le travail des enfants au-dessous de 13 ans fut réduit à 6h30 par jour et, dans certains cas, à 7h. Note de bas de page. L'acte permet d'employer des enfants pendant 10h quand, au lieu de travailler tous les jours, ils travaillent seulement un jour sur deux. En général, cette clause resta sans effet. Fin de la note de bas de page. Donc, le travail des enfants au-dessous de 13 ans fut réduit à 6h30 par jour et dans certains cas à 7h. Pour écarter les abus du, ouvrez les guillemets, faux système de relais, fermez les guillemets, la loi établit quelques règlements de détail d'une grande importance, entre autres les suivants, ouvrez les guillemets. La journée de travail pour enfants et adolescents doit être comptée à partir du moment où soit un enfant, soit un adolescent commence à travailler le matin dans la fabrique. Fermez les guillemets. De sorte que si grand A, par exemple, commence son travail à 8h du matin et grand B à 10h, la journée de travail pour grand B doit finir à la même heure que pour grand A. Ouvrez les guillemets. Le commencement de la journée de travail doit être indiqué par une horloge publique, par l'horloge au chemin de fer voisin, par exemple, sur lequel la cloche de la fabrique doit se régler. Il faut que le fabricant affiche dans la fabrique un avis imprimé en grosses lettres dans lequel se trouvent fixés le commencement, la fin et les pauses de la journée de travail. Les enfants qui commencent leur travail avant midi ne doivent plus être employés après 1h de l'après-midi. La série d'après-midi sera donc composée d'autres enfants que celle du matin. L'heure et demie pour les repas doit être octroyée à tous les travailleurs protégés par la loi aux mêmes périodes du jour, 1 heure au moins avant 3h de l'après-midi. Aucun enfant ou adolescent ne doit être employé avant 1h de l'après-midi, plus de 5h, sans une pause d'une demi-heure au moins pour leur repas. Aucun enfant, adolescent ou femme ne doit rester pendant un repas quelconque dans l'atelier de la fabrique, tant qu'il s'y fait n'importe quelle opération, etc. Fermez les guillemets. On le voit, ces édits minutieux qui règlent militairement et au son de la cloche la période, les limites et les pauses du travail ne furent point le produit d'une fantaisie parlementaire. Ils naquirent des circonstances et se développèrent peu à peu comme loi naturelle du mode de production moderne. Il fallut une longue lutte sociale entre les classes avant qu'ils fussent formulés, reconnus officiellement et promulgués au nom de l'État. Une de leurs conséquences les plus immédiates fut que, dans la pratique, la journée de travail des ouvriers mâles adultes se trouva du même coup limitée. Parce que dans la plupart des travaux de la grande industrie, la coopération d'enfants, d'adolescents et de femmes est indispensable. La journée de travail de 12 heures resta donc en vigueur généralement et uniformément pendant la période de 1844-47 dans toutes les fabriques soumises à la législation manufacturière. Les fabricants ne permirent pas néanmoins ce « progrès » entre guillemets, sans qu'il fût compensé par un « recul » entre guillemets. Sur leurs instances, la Chambre des communes réduisit de 9 à 8 ans l'âge minimum des exploitables pour assurer au capital, ouvre les guillemets, l'approvisionnement additionnel d'enfants de fabrique, ferme les guillemets, qui lui est dû de par Dieu et de par la loi. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Comme une réduction des heures de travail des enfants serait cause qu'un grand nombre d'entre eux seraient employés, on a pensé qu'un approvisionnement additionnel d'enfants de 8 à 9 ans couvrirait l'augmentation de la demande. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. L'Occit, page 13. Fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc. Sur leurs instances, celles des fabricants, entre crochets, la Chambre des communes réduisit de 9 à 8 l'âge minimum des exploitables pour assurer au capital, ouvrez les guillemets, l'approvisionnement additionnel d'enfants de fabrique, fermez les guillemets, qui lui est dû de par Dieu et de par la loi. Les années 1846-47 font époque dans l'histoire économique de l'Angleterre. Abrogation de la loi des céréales, abolition des droits d'entrée sur le coton et autres matières premières, proclamation du libre-échange comme guide de la législation commerciale. En un mot, le règne millénaire commençait à poindre. D'autre part, c'est dans les mêmes années que le mouvement chartiste et l'agitation des 10 heures atteignirent leur point culminant. Ils trouvèrent des alliés dans les Tories qui ne respiraient que vengeance. Malgré la résistance fanatique de l'armée libre-échangiste Parjure, en tête de laquelle marchaient Bright et Cobden, le Bill des 10 heures, objet de tant de luttes, fut adopté par le Parlement. La nouvelle loi sur les fabriques du 8 juin 1847 établit qu'au 1er juillet de la même année, la journée de travail serait préalablement réduite à 11 heures pour « les adolescents » entre guillemets, ouvrez la parenthèse, de 13 à 18 ans, fermez la parenthèse, et pour toutes les ouvrières. Mais qu'au 1er mai 1848, aurait lieu la limitation définitive à 10 heures. Pour le reste, ce n'était qu'un amendement des lois de 1833 et 1844. Le capital entreprit alors une campagne préliminaire dont le but était d'empêcher la mise en pratique de la loi au 1er mai 1848. C'étaient les travailleurs eux-mêmes qui, censés instruits par l'expérience, devaient, d'après le plan des maîtres, servir d'auxiliaires pour la destruction de leur propre ouvrage. Le moment était habilement choisi. Ouvrez les guillemets. On doit se souvenir que par suite de la terrible crise de 1846-47, il régnait une profonde misère provenant de ce qu'un grand nombre de fabriques avaient raccourci le travail et que d'autres l'avaient complètement suspendu. Beaucoup d'ouvriers se trouvaient dans la gêne et étaient endettés. Il y avait donc toute apparence qu'ils accepteraient volontiers un surcroît de travail pour réparer leurs pertes passées, payer leurs dettes, retirer leurs meubles engagés, remplacer leurs effets vendus, acheter de nouveaux vêtements pour eux-mêmes et pour leur famille, etc. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reap of Innsbruck Fact. 31 octobre 1848, page 16. Fin de la note de bas de page. Messieurs les fabricants cherchèrent à augmenter l'effet naturel de ces circonstances en abaissant d'une manière générale le salaire de 10%. C'était pour payer la bienvenue de l'ère libre-échangiste. Une seconde baisse de 0,8% se fit lors de la réduction de la journée à 11 heures et une troisième de 15% quand la journée descendit définitivement à 10 heures. Partout où les circonstances le permirent, les salaires furent réduits d'au moins 25%. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Je vis qu'on prélevait 1 shilling sur les gens qui avaient reçu 10 shillings par semaine, en raison de la baisse générale du salaire de 10%, et 1 shilling 6 pence en plus à cause de la diminution du temps de travail, soit en tout 2 shillings 6 pence. Mais cela n'empêcha point le plus grand nombre de tenir ferme pour le bill des 10 heures. Fermez les guillemets. L'Occite entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. Donc, partout où les circonstances le permirent, les salaires furent réduits d'au moins 25%. Avec des chances si heureuses, on commença à semer l'agitation parmi les ouvriers pour l'abrogation de la loi de 1847. Aucun des moyens que peuvent fournir le mensonge, la séduction et la menace ne fut dédaigné. Mais tout fut inutile. On réunit à grande peine une demi-douzaine de pétitions où des ouvriers durent se plaindre, ouvrez les guillemets, de l'oppression qu'ils subissaient en vertu de cette loi, fermez les guillemets. Mais les pétitionnaires eux-mêmes déclarèrent dans leurs interrogatoires qu'on les avait contraints à donner leur signature. Ouvrez les guillemets. Qu'en réalité, ils étaient bien opprimés, mais non point par la loi susdite. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. En signant la pétition, je déclarais que je n'agissais pas bien. Alors, pourquoi avez-vous signé? Parce qu'en cas de refus, on m'aurait jeté sur le pavé. Fermez les guillemets. Le pétitionnaire se sentait en réalité « opprimé » entre guillemets, mais pas précisément par la loi sur les fabriques. Fermez les guillemets. L'Occite, page 102, entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. Les fabricants, ne réussissant point à faire parler les ouvriers dans leur sens, se mirent eux-mêmes à crier d'autant plus haut dans la presse et dans le Parlement au nom des ouvriers. Ils dénoncèrent les inspecteurs comme une espèce de commissaire révolutionnaire qui sacrifiait impitoyablement le malheureux travailleur à leurs fantaisies humanitaires. Cette manœuvre n'eut pas plus de succès que la première. L'inspecteur de fabrique, Leonard Horner, en personne et accompagné de ses sous-inspecteurs, procéda dans le Lancashire à de nombreux interrogatoires. Environ 70% des ouvriers entendus se déclarèrent pour 10 heures, un nombre peu considérable pour 11, et enfin une minorité tout à fait insignifiante pour les 12 heures anciennes. Note de bas de page. Page 17, L'Occite. Dans le district de Mr. Horner, 10 270 ouvriers adultes furent interrogés dans 181 fabriques. On trouve leur déposition dans l'appendice du rapport de fabrique semestriel d'octobre 1848. Ces témoignages offrent des matériaux qui ont beaucoup d'importance sous d'autres rapports. Fin de la note de bas de page. Donc, environ 70% des ouvriers entendus se déclarèrent pour 10 heures. Un nombre peu considérable pour 11 heures, et enfin une minorité tout à fait insignifiante pour les 12 heures anciennes. Une autre manœuvre à l'amiable consista à faire travailler de 12 à 15 heures les ouvriers mâles adultes et à proclamer ce fait comme la véritable expression des désirs du cœur des prolétaires. Mais l'impitoyable entre guillemets Leonard Horner revint de nouveau à la charge. La plupart de ceux qui travaillaient plus que le temps légal déclarèrent, ouvrez les guillemets, qu'ils préféreraient de beaucoup travailler 10 heures pour un moindre salaire, mais qu'ils n'avaient pas le choix. Un si grand nombre d'entre eux se trouvaient sans travail. Tant de fileurs étaient forcés de travailler comme simples rattacheurs, pisseurs entre parenthèses, que s'ils se refusaient à la prolongation du temps de travail, d'autres prendraient aussitôt leur place, de sorte que la question pour eux se formulait ainsi, ou travailler plus longtemps, ou rester sur le pavé. Fermez les guillemets. Note de bas de page. L'Occite. Voyez les dépositions rassemblées par Leonard Horner lui-même. Numéro 69, 70, 71, 72, 92, 93, et celles recueillies par le sous-inspecteur Granta, numéro 51, 52, 58, 59, 60, 62, 70, de l'appendice. Un fabricant dit même la vérité toute nue. Voyez numéro 14 après numéro 265, L'Occite. Fin de la note de bas de page. Le ballon d'essai du capital creva et la loi de 10 heures entra en vigueur le 1er mai 1848. Mais la défaite du parti chartiste, dont les chefs furent emprisonnés et l'organisation détruite, venait d'ébranler la confiance de la classe ouvrière anglaise en sa force. Bientôt après, l'insurrection de juin à Paris, noyée dans le sang, réunit sous le même drapeau, en Angleterre comme sur le continent, toutes les fractions des classes régnantes, propriétaires fonciers et capitalistes, loups de bourse et rats de boutique, protectionnistes et libre-échangistes, gouvernement et opposition, calotins et esprits forts, jeunes catins et vieilles nonnes, et leur cri de guerre fut « Sauvons la caisse, la propriété, la religion, la famille et la société ». La classe ouvrière, déclarée criminelle, fut frappée d'interdiction et placée sous « la loi des suspects » entre guillemets. Messieurs les fabricants n'eurent plus dès lors besoin de se gêner. Ils se déclarèrent en révolte ouverte, non seulement contre la loi des 10 heures, mais encore contre toute la législation qui, depuis 1833, cherchait à réfréner dans une certaine mesure la « libre » entre guillemets exploitation de la force de travail. Ce fut une rébellion esclavagiste, pro-slavery rebellion entre parenthèses en miniature, poursuivie pendant plus de 2 ans, avec l'effronterie la plus cynique, la persévérance la plus féroce et le terrorisme le plus implacable, à d'autant meilleur compte que le capitaliste révolté ne risquait que la peau de ses ouvriers. Pour comprendre ce qui suit, il faut se souvenir que les lois de 1833, 1844 et 1847 sur le travail dans les fabriques étaient toutes trois en vigueur, en tant du moins que l'une n'amendait pas l'autre, qu'aucune ne limitait la journée de travail de l'ouvrier mâle âgé de plus de 18 ans, et que depuis 1833, la période de 15 heures entre 5h30 du matin et 8h30 du soir était restée le « jour » entre guillemets légal dans les limites duquel le travail des adolescents et des femmes, d'abord de 12 heures, plus tard de 10, devait s'exécuter dans les conditions prescrites. Les fabricants commencèrent par congédier ça et là une partie et parfois la moitié des adolescents et des ouvrières employés par eux. Puis ils rétablirent en revanche parmi les ouvriers adultes le travail de nuit presque tombé en désuétude. Ouvrez les guillemets. La loi des 10 heures, s'écrièrent-ils, ne nous laisse pas d'autre alternative. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. For 31st October 1848, page 133-134, fin de la note de bas de page. Leur seconde agression eut pour objet les intervalles légaux prescrits pour les repas. Écoutons les inspecteurs, ouvrez les guillemets. Depuis la limitation des heures de travail à 10, les fabricants soutiennent, bien que dans la pratique ils ne poussent pas leur manière de voir à ces dernières conséquences, que s'ils font travailler, par exemple, de 9h du matin à 7h du soir, ils satisfont aux prescriptions de la loi en donnant 1h30 pour les repas de la façon suivante. 1h le matin avant 9h et 1/2 heure le soir après 7h. Dans certains cas, ils accordent maintenant 1/2 heure pour le dîner, mais ils prétendent en même temps que rien ne les oblige à accorder une partie quelconque de 1h30 légale dans le cours de la journée de travail de 10h. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. For 31st April 1848, page 47. Fin de la note de bas de page. Messieurs les fabricants, soutenez donc que les articles de la loi de 1844 qui règlent si minutieusement les heures de repas, donnait tout simplement aux ouvriers la permission de manger et de boire avant leur entrée dans la fabrique et après leur sortie, c'est-à-dire de prendre leur repas chez eux. Pourquoi, en effet, les ouvriers ne dîneraient-ils pas avant 9h du matin? Les juristes de la couronne décidèrent pourtant que le temps prescrit pour les repas devait être accordé pendant la journée de travail réelle, par intervalle, et qu'il était illégal de faire travailler sans interruption 10 heures entières, de 9h du matin à 7h du soir. Note de bas de page. Reports, etc. for 31st October 1848, page 130, fin de la note de bas de page. Après ces aimables démonstrations, le capital préluda à sa révolte par une démarche qui était conforme à la loi de 1844 et par conséquent légale. La loi de 1844 défendait bien, passé 1h de l'après-midi, d'employer de nouveau les enfants de 8 à 13 ans qui avaient été occupés avant midi. Mais elle ne réglait en aucune manière les 6h30 de travail des enfants qui se mettaient à l'ouvrage à midi, ou plus tard. Des enfants de 8 ans pouvaient donc, à partir de midi, être employés jusqu'à 1h, puis de 2h à 4h, et enfin de 5h à 8h30. En tout, 6h30, conformément à la loi. Mieux encore. Pour faire coïncider leur travail avec celui des ouvriers adultes, jusqu'à 8h30 du soir, il suffisait aux fabricants de ne leur donner aucun ouvrage avant 2h de l'après-midi et de les retenir ensuite sans interruption dans la fabrique jusqu'à 8h30. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, l'on s'avoue expressément que, par suite de la cupidité des fabricants et de leur envie de tenir leurs machines en haleine pendant plus de 10h, la pratique s'est glissée en Angleterre de faire travailler jusqu'à 8h30 du soir des enfants des deux sexes, de 8 à 13 ans, seuls avec les hommes, après le départ des adolescents et des femmes. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. Locksit, page 42. Fin de la note de bas de page. Ouvriers et inspecteurs protestèrent au nom de la morale et de l'hygiène. Mais le capital pense comme Shylock, ouvrez les guillemets, que le poids de mes actes retombe sur ma tête. Je veux mon droit, l'exécution de mon bail et tout ce qu'il a stipulé. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. For 31st October 1850, page 5, 6, Fin de la note de bas de page. En réalité, d'après les chiffres produits devant la Chambre des communes le 26 juillet 1850, et malgré toutes les protestations, il y avait, le 15 juillet 1850, 3742 enfants dans 275 fabriques soumis à cette « pratique » entre guillemets nouvelle. Note de bas de page. Report, etc. for 31st October 1850, page 5, 6, fin de la note de bas de page. Ce n'était pas encore assez. L'œil de lynx du capital découvrit que la loi de 1844 défendait bien, il est vrai, de faire travailler plus de 5 heures avant midi sans une pause d'au moins 30 minutes pour se restaurer, mais aussi qu'il ne prescrivait rien de pareil pour le travail postérieur. Il demanda donc, et obtint, la jouissance non seulement de faire trimer de 2 heures à 9 heures du soir, sans relâche, des enfants de 8 ans, mais encore de les faire jeûner et de les affamer. Ouvrez les guillemets. C'est la chair qu'il me faut, disait Shylock. Ainsi le porte le billet. Fermez les guillemets. Note de bas de page. La nature du capital reste toujours la même, que ses formes soient à peine ébauchées ou développées complètement. Dans un code octroyé au territoire du Nouveau-Mexique par les propriétaires d'esclaves, à la veille de la guerre civile américaine, on lit, ouvrez les guillemets. L'ouvrier, en tant que le capitaliste a acheté sa force de travail, est son argent, ouvrez la parenthèse, l'argent du capitaliste, fermez la parenthèse. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. The laborer is his, the capitalist's, entre parenthèses, money, fermez les guillemets. La même manière de voir régnait chez les patriciens de Rome. L'argent qu'ils avaient avancé aux débiteurs plébéiens se transsubstanciait par l'intermédiaire des moyens de subsistance dans la chair et le sang du malheureux. Cette chair entre guillemets et ce sang était donc leur argent entre guillemets. De là, la loi des 12 tables, tout à la Shylock. Nous passons naturellement sur l'hypothèse de Linguet, d'après laquelle les créanciers patriciens s'invitaient de temps à autre, de l'autre côté du Tibre, à des festins composés de la chair de débiteurs, cuite à point, ainsi que sur l'hypothèse de Domère à propos de l'Eucharistie chrétienne. Fin de la note de bas de page. Donc. Il demanda donc et obtint la jouissance non seulement de faire trimer de 2 à 9 heures du soir, sans relâche, des enfants de 8 ans, mais encore de les faire jeûner et de les affamer. Ouvrez les guillemets. C'est la chair qu'il me faut, disait Shylock. Ainsi le porte le billet. Fermez les guillemets. Cette façon de s'accrocher à la lettre de la loi en tant qu'elle règle le travail des enfants n'avait pour but que de préparer la révolte ouverte contre la même loi en tant qu'elle règle le travail des adolescents et des femmes. On se souvient que l'objet principal de cette loi était l'abolition du faux système de relais. Les fabricants commencèrent leur révolte en déclarant tout simplement que les articles de la loi de 1844 qui défendent d'employer ad libitum les adolescents et les femmes en leur faisant suspendre et reprendre leur travail à n'importe quel moment de la journée, n'était qu'une bagatelle comparativement tant que le temps de travail demeurait fixé à 12 heures. Mais que depuis la loi de 10 heures, il ne fallait plus parler de s'y soumettre. Note de bas de page, report, etc. for 31st October 1848, page 133, fin de la note de bas de page. Ils firent donc entendre aux inspecteurs, avec le plus grand sang-froid, qu'ils sauraient se placer au-dessus de la lettre de la loi et rétabliraient l'ancien système de leur propre autorité. Note de bas de page. C'est ce que fit, entre autres, le philanthrope Ashworth dans une lettre suintant le quakérisme adressée à Leonard Horner. Fin de la note de bas de page. Donc. Ils firent donc entendre aux inspecteurs, avec le plus grand sang-froid, qu'ils sauraient se placer au-dessus de la lettre de la loi et rétabliraient l'ancien système de leur propre autorité. Ils agissaient ainsi, du reste, dans l'intérêt même des ouvriers mal conseillés. Ouvrez les guillemets, pour pouvoir leur payer des salaires plus élevés. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. C'était en outre le seul et unique moyen de conserver, avec la loi des 10 heures, la suprématie industrielle de la Grande-Bretagne. Fermez les guillemets. Note de bas de page. L'Occit, page 134, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Possible que la pratique du système des relais rende quelque peu difficile la découverte des infractions à la loi. Mais quoi? Ouvrez la parenthèse. What of that? Fermez la parenthèse. Le grand intérêt manufacturier du pays doit-il être traité par-dessous la jambe pour épargner un peu de peine? Ouvrez la parenthèse. Some little trouble, fermez la parenthèse. Aux inspecteurs de fabrique et aux sous-inspecteurs? Fermez les guillemets. Note de bas de page. L'Occit, page 140, fin de la note de bas de page. Toutes ces balivernes ne produisirent naturellement aucun effet. Les inspecteurs des fabriques procédèrent juridiquement. Mais bientôt, le ministre de l'Intérieur, Sir George Grey, fut tellement bombardé de pétitions des fabricants que dans une circulaire du 5 août 1848, il recommanda aux inspecteurs, ouvrez les guillemets, de ne point intervenir pour violation de la lettre de la loi tant qu'il ne serait pas prouvé suffisamment qu'on avait abusé du système des relais pour faire travailler des femmes et des adolescents plus de 10 heures. Fermez les guillemets. Aussitôt, l'inspecteur de fabrique Jay Stewart autorisa le susdit système dans toute l'Écosse, où il refleurit de plus belle. Les inspecteurs anglais, au contraire, déclarèrent que le ministre ne possédait aucun pouvoir dictatorial qui lui permît de suspendre les lois et continuèrent à poursuivre juridiquement les rebelles. Mais à quoi bon traîner les capitalistes à la barre de la justice, puisque les county magistrates, note de bas de page, c'est county magistrates, entre guillemets, les grands non payés, entre guillemets, Great Unpaid, entre parenthèses, comme les nomme W. Cobbett, sont des juges de paix pris parmi les notables des comtés et remplissant leurs fonctions gratuitement. Ils forment en réalité la juridiction patrimoniale des classes régnantes. Fin de la note de bas de page. Donc. Mais à quoi bon traîner les capitalistes à la barre de la justice ? Puisque les county magistrates prononcent l'acquittement. Dans ces tribunaux, messieurs les fabricants siégeaient comme juges de leur propre cause. Un exemple. Un certain Eskridge, filateur, de la raison sociale Kershaw, Lise et si, avait soumis à l'inspecteur de son district le plan d'un système de relais destiné à sa fabrique. Et conduit avec un refus, il se tint d'abord quoi? Quelques mois plus tard, un individu nommé Robinson, filateur de coton également, et dont le susdit Eckridge était le parent, sinon le vendredi, comparaissait devant le tribunal du bourg de Stockport pour avoir mis à exécution un plan de relais ne différant en rien de celui qu'Eskridge avait inventé. 4 juges siégeaient, dont 3 filateurs de coton, à la tête desquels l'inventif Eskridge. Eskridge acquitta Robinson, puis fut d'avis que ce qui était juste pour Robinson était équitable pour Eskridge. S'appuyant donc sur son propre arrêt, il établit immédiatement le système dans sa propre fabrique. Note de bas de page. reports, etc. For 30 avril 1849, page 21-22, voir des exemples semblables, Ibid, page 4-5, fin de la note de bas de page. La composition de ce tribunal était déjà assurément une violation flagrante de la loi. Note de bas de page. Par les articles 1 et 2, grand 4, chapitre 24, page 10, connu sous le nom de Factory Act de Sir John Hobhouse, il est défendu à n'importe quel propriétaire des filatures ou de tisseanderies, et de même aux pères, fils et frères d'un tel propriétaire, de fonctionner comme juge de paix dans les questions qui ressortissent du Factory Act. Fin de la note de bas de page. Donc, ou bien accommoder la loi à ces sortes de jugements, ou bien confier-la à un tribunal moins sujet à faillir et qui sache mettre ses décisions en accord avec elle, trois petits points. Dans tous les cas semblables, combien ne désire-t-on pas un juge payé ? Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Ce genre de farce juridique, fermez les guillemets, s'écrie l'inspecteur Howell. Ouvrez les guillemets. Exige qu'on y mette bon ordre, trois petits points. Ou bien accommoder la loi à ces sortes de jugements, ou bien confier-la à un tribunal moins sujet à faillir et qui sache mettre ses décisions en accord avec elle. Trois petits points. Dans tous les cas semblables, combien ne désire-t-on pas un juge payé ? Fermez les guillemets. Note de bas de page, Locksit, fin de la note de bas de page. Les juristes de la couronne déclarèrent absurde l'interprétation donnée par les fabricants à la loi de 1844. Mais les sauveurs de la société ne s'y murent pas pour si peu. Ouvrez les guillemets. Après avoir essayé en vain, rapporte Leonard Horner, de faire exécuter la loi au moyen de 10 poursuites dans 7 circonscriptions judiciaires différentes, et n'avoir été soutenu qu'en un seul cas par les magistrats. Je regarde toute poursuite pour entorse donnée à la loi comme désormais inutile. La partie de la loi qui a été rédigée pour créer l'uniformité dans les heures de travail n'existe plus dans le Lancashire. D'autre part, mes sous-agents et moi, nous ne possédons aucun moyen de nous assurer que les fabriques où règne le système des relais n'occupent pas les adolescents et les femmes au-delà de 10 heures. Depuis la fin d'avril 1849, il y a déjà dans mon district 118 fabriques qui travaillent d'après cette méthode et leur nombre augmente tous les jours rapidement. En général, elles travaillent maintenant 13h30, de 6h du matin à 7h30 du soir, dans quelques cas 15h, de 5h30 du matin à 8h30 du soir. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. for 30 April 1849, page 5, fin de la note de bas de page. En décembre 1848, Leonard Horner possédait déjà une liste de 65 fabricants et de 29 surveillants de fabrique qui déclaraient tout d'une voix qu'avec le système des relais en usage, aucun système d'inspection ne pouvait empêcher le travail extra d'avoir lieu sur la plus grande échelle. Note de bas de page. Reports, etc. for 31 October 1849, page 6. Fin de la note de bas de page. Les mêmes enfants et les mêmes adolescents étaient transférés, shifted entre parenthèses, tantôt de la salle à filer dans la salle à tisser, tantôt d'une fabrique dans une autre. Note de bas de page, reports, etc. for 30 April 1849, page 21, fin de la note de bas de page. Comment contrôler un système, ouvrez les guillemets, qui abuse du mot relais pour mêler les bras, entre guillemets, comme des cartes les unes avec les autres, en mille combinaisons diverses, et pour varier chaque jour les heures de travail et de répit, à tel point pour les différents individus, qu'un seul et même assortiment de bras entre guillemets complet ne travaille jamais à la même place et dans le même temps. Fermez les guillemets. Indépendamment de l'excès de travail qu'il créait, ce susdit système de relais était un produit de la fantaisie capitaliste tel que Fourier n'a pu le dépasser dans ses esquisses les plus humoristiques, ouvrez les guillemets, des courtes séances, fermez les guillemets. Mais il faut dire que le système remplaçait l'attraction du travail par l'attraction du capital. Il suffit, pour s'en assurer, de jeter un coup d'œil sur les cadres fournis par les fabricants, sur cette organisation que la presse honnête et modérée exaltait comme un modèle, ouvrez les guillemets, de ce qu'un degré raisonnable de soin et de méthode peut accomplir, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, what a reasonable degree of care and method can accomplish, fermez la parenthèse. Le personnel des travailleurs était divisé parfois en 12 et 14 catégories, dont les parties constitutives subissaient de nouveau des modifications continuelles. Pendant la période de 15 heures, formant la journée de fabrique, le capital appelait l'ouvrier maintenant pour 30 minutes, puis pour une heure, et le renvoyait ensuite pour le rappeler de nouveau, et le renvoyer encore, le ballottant de côté et d'autre par lambeaux de temps disséminés, sans jamais le perdre de l'œil ni de la main, jusqu'à ce que le travail de 10 heures fût accompli. Comme sur un théâtre, les mêmes comparses avaient à paraître tour à tour dans les différentes scènes des différents actes. Mais, de même qu'un acteur pendant toute la durée du drame appartient à la scène, de même, les ouvriers appartenaient à la fabrique pendant 15 heures, sans compter le temps d'aller et de retour. Les heures de répit se transformaient ainsi en heures d'oisiveté forcée, qui entraînaient le jeune ouvrier au cabaret et la jeune ouvrière au bordel. Chaque fois que le capitaliste inventait quelque chose de neuf, ce qui avait lieu tous les jours, pour tenir ses machines en haleine pendant 12 ou 15 heures, sans augmenter son personnel, le travailleur était obligé, tantôt de perdre son temps, tantôt d'en profiter à la hâte pour avaler son repas. Lors de l'agitation des 10 heures, les fabricants criaient partout que si la canaille ouvrière faisait des pétitions, c'était dans l'espoir d'obtenir un salaire de 12 heures pour un travail de 10. Ils avaient maintenant retourné la médaille, ils payaient un salaire de 10 heures pour une exploitation de 12 et 15 heures. Note de bas de page. Voyez, ouvrez les guillemets, report, etc., for 30 April 1849, page 6, et l'explication détaillée du « shifting system », entre guillemets, donnée par les inspecteurs de fabrique Howell et Saunders dans les « reports for 31 October 1848 ». Voyez de même la pétition du clergé d'Ashton et des alentours, adressée à la reine, avril 1849, entre parenthèses, contre le « shift system », entre guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, ils avaient maintenant retourné la médaille. Ils payaient un salaire de 10 heures pour une exploitation de 12 et 15 heures. Voilà comment la loi des 10 heures était interprétée par les fabricants. C'étaient cependant les mêmes hommes, les mêmes libre-échangistes, confits d'onction, suant par tous les pores l'amour de l'humanité, qui, pendant 10 ans, tant que dura l'agitation contre la loi des céréales, ne se lassaient pas de démontrer aux ouvriers, par sous et liards, que 10 heures de leur travail quotidien suffiraient amplement pour enrichir les capitalistes, si un nouvel essor était donné à l'industrie anglaise, par la libre importation des grains. Note de bas de page, comp par ex, ouvrez les guillemets, The Factory Question and the Ten Hot Bill, by R. H. Greg, 1837, fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. La révolte du capital, après avoir duré 2 années, fut enfin couronnée par l'arrêt d'une des 4 hautes cours d'Angleterre, la Cour de l'Échiquier. À propos d'un cas qui lui fut présenté le 8 février 1850, cette cour décida que les fabricants agissaient, il est vrai, contre le sens de la loi de 1844, mais que cette loi elle-même contenait certains mots, note de la donneuse de voix, M-O-T-S, fin de la note de la donneuse de voix, qui la rendaient absurde, ouvrez les guillemets. Par suite de cette décision, la loi des 10 heures fut en réalité abolie, fermez les guillemets. Note de bas de page. F. Engels. Die englische Zehnstundenbill, ouvrez la parenthèse, dans la Neue Rheinische Zeitung, revue politique et économique, éditée par Karl Marx, livraison d'avril 1850, page 13, fermez la parenthèse. Cette même haute entre guillemets cour découvrit aussi, pendant la guerre civile américaine, une ambiguïté de mots qui changeait complètement le sens de la loi dirigée contre l'armement des navires de pirates et la transformait en sens contraire. Fin de la note de bas de page. Donc, la révolte du capital, après avoir duré 2 années, fut enfin couronnée par l'arrêt d'une des 4 hautes cours d'Angleterre, la Cour de l'Échiquier. À propos d'un cas qui lui fut présenté le 8 février 1850, cette cour décida que les fabricants agissaient, il est vrai, contre le sens de la loi de 1844, mais que cette loi elle-même contenait certains mots qui la rendaient absurde, ouvrez les guillemets. Par suite de cette décision, la loi des 10 heures fut en réalité abolie, fermez les guillemets. Une foule de fabricants qui jusqu'alors n'avaient pas osé employer le système des relais pour les adolescents et les ouvrières, y allèrent désormais des 2 mains à la fois. Note de bas de page. Report, etc. for 30 April 1850, fin de la note de bas de page. Mais ce triomphe du capital, en apparence définitif, fut aussitôt suivi d'une réaction. Les travailleurs avaient opposé jusqu'alors une résistance passive, quoique indomptable et sans cesse renaissante. Ils se mirent maintenant à protester dans le Lancashire et le Yorkshire par des meetings de plus en plus menaçants. Ouvrez les guillemets. La prétendue loi des 10 heures, s'écriaient-ils, n'aurait donc été qu'une mauvaise farce, une duperie parlementaire, et n'aurait jamais existé. Fermez les guillemets. Les inspecteurs de fabrique avertirent avec insistance le gouvernement que l'antagonisme des classes était monté à un degré incroyable. Des fabricants eux-mêmes se mirent à murmurer. Ils se plaignirent de ce que, ouvrez les guillemets, grâce aux décisions contradictoires des magistrats, il régnait une véritable anarchie. Telle loi était en vigueur dans le Yorkshire, telle autre dans le Lancashire, telle autre dans une paroisse de ce dernier comté, telle autre enfin dans le voisinage immédiat. Si les fabricants des grandes villes pouvaient éluder la loi, il n'en était pas de même des autres qui ne trouvaient point le personnel nécessaire pour le système de relais, et encore moins pour le ballottage des ouvriers d'une fabrique dans une autre, et ainsi de suite. Fermez les guillemets. Or, le premier droit du capital n'est-il pas l'égalité dans l'exploitation de la force du travail? Ces diverses circonstances amenèrent un compromis entre fabricants et ouvriers, lequel fut scellé parlementairement par la loi additionnelle sur les fabriques le 5 août 1850. La journée de travail fut élevée de 10 heures à 10h30 dans les 5 premiers jours de la semaine et restreinte à 7h30 le samedi pour, ouvrez les guillemets, les adolescents et les femmes, fermez les guillemets. Le travail doit avoir lieu de 6h du matin à 6h du soir. Note de bas de page. En hiver, de 7h du matin à 7h du soir, si l'on veut. Fin de la note de bas de page. Donc, le travail doit avoir lieu de 6h du matin à 6h du soir, avec des pauses 1h30 pour les repas, lesquelles doivent être accordées en même temps, conformément aux prescriptions de 1844, etc. Le système des relais fut ainsi aboli une fois pour toutes. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. La présente loi de 1850, entre parenthèses, a été un compromis par lequel les ouvriers employés livraient le bénéfice de la loi des 10 heures en retour d'une période uniforme pour le commencement et la fin du travail de ceux dont le travail est restreint. Fermez les guillemets. Note de la donneuse de voix. Dans l'édition sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre, on trouve la traduction suivante. Ouvrez les guillemets. La présente loi de 1850 était un compromis par lequel les travailleurs renonçaient à la bénédiction de la loi des 10 heures contre l'avantage d'une uniformisation du début et de la fin du travail pour ceux dont le temps de travail tombait sous le coup de la limitation. Fermez les guillemets. Fin de la note de la donneuse de voix. Ouvrez la parenthèse. Report, etc. For 30 April 1852, page 14, fermez la parenthèse. Fin de la note de bas de page. Donc, le système des relais fut ainsi aboli une fois pour toutes. Pour ce qui est du travail des enfants, la loi de 1844 resta en vigueur. Une autre catégorie de fabricants s'assura cette fois, comme précédemment, des privilèges seigneuriaux sur les enfants des prolétaires. Ce furent les fabricants de soie. En 1833, ils avaient hurlé comminatoirement que, ouvrez les guillemets, si on leur ôtait la liberté d'exténuer pendant 10 heures par jour des enfants de tout âge, c'était arrêter leur fabrique. Ouvrez la parenthèse. If the liberty of working children of any age for 10 hours a day was taken away, it would stop their works. Fermez la parenthèse. Qu'il leur était impossible d'acheter un nombre suffisant d'enfants au-dessus de 13 ans. Fermez les guillemets. Et ils avaient ainsi extorqué le privilège désiré. Des recherches ultérieures démontrèrent que ce prétexte était un pur mensonge. Note de bas de page. Report Estera, for 30 septembre 1844, page 13, 2, L'Occite. Fin de la note de bas de page. Ce qui ne les empêcha pas, 10 années durant, de filer de la soie chaque jour pendant 10 heures avec le sang d'enfants si petits qu'on était obligé de les mettre sur de hautes chaises pendant toute la durée de leur travail. La loi de 1844 les dépouilla, entre guillemets, bien, à vrai dire, de la liberté, entre guillemets, de faire travailler plus de 6h30 des enfants au-dessous de 11 ans, mais leur assura en retour le privilège d'employer pendant 10 heures des enfants entre 11 et 13 ans et de défendre à leurs victimes de fréquenter l'école, obligatoire pour les enfants des autres fabriques. Cette fois, le prétexte était que, ouvrez les guillemets, la délicatesse du tissu exigeait une légèreté de toucher qu'il ne pouvait acquérir qu'en entrant de bonne heure dans la fabrique. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. The delicate texture of the fabric in which they were employed, requiring lightness of touch, only to be acquired by their early introduction to these factories. Fermez les guillemets. L'Occite, page 20, entre parenthèses. Fin de la note de bas de page. Pour la finesse des tissus de soie, les enfants furent immolés en masse, comme les bêtes à cornes le sont dans le sud de la Russie, pour leur peau et leur graisse. Le privilège, accordé en 1844, fut enfin limité en 1850 aux ateliers de dévidage de soie. Mais ici, pour dédommager la cupidité de sa « liberté » entre guillemets « ravie », le temps de travail des enfants de 11 à 13 ans fut élevé de 10h à 10h30. Sous quel nouveau prétexte, ouvrez les guillemets, parce que le travail est beaucoup plus facile dans les manufactures de soie que dans les autres et de beaucoup moins nuisible à la santé, fermez les guillemets. Note de bas de page. Reports, etc. For 31 octobre 1861, page 26, fin de la note de bas de page. Une enquête médicale officielle prouva ensuite que, bien au contraire, ouvrez les guillemets, le chiffre moyen de mortalité dans les districts où se fabrique la soie est exceptionnellement élevé et dépasse même, pour la partie féminine de la population, celui des districts cotonniers du Lancashire. Fermez les guillemets. Note de bas de page. L'Occite, page 27. En général, la population ouvrière soumise à la loi des fabriques s'est physiquement beaucoup améliorée. Néanmoins, on trouve dans les rapports officiels du docteur Greenhow le tableau suivant. District de Wigan. 14,9% d'adultes occupés dans les manufactures. 598 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes. 644 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes. 18% de femmes occupées dans les manufactures. Genre d'occupation, coton. District de Blackburn. 42,6% d'adultes occupés dans les manufactures, 708 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes, 734 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes, 34,9% de femmes occupées dans les manufactures. Genre d'occupation, coton. District de Halifax. 37,3% d'adultes occupés dans les manufactures, 547 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes, 564 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes, 20,4% de femmes occupées dans les manufactures, genre d'occupation, worsted, laine filée. District de Bradford. 41,9% d'adultes occupés dans les manufactures, 611 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes, 603 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes, 30% de femmes occupées dans les manufactures, genre d'occupation, worsted, laine filée. District de Macclesfield. 31% d'adultes occupés dans les manufactures, 691 morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes, 804 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes, 26% de femmes occupées dans les manufactures, genre d'occupation, soie. District de Leek. 14,9% d'adultes occupés dans les manufactures. 588 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes. 705 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes. 17,2% de femmes occupées dans les manufactures. Genre d'occupation, soit. District de Stoke-upon-Trent. 36,6% d'adultes occupés dans les manufactures. 721 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes. 665 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes. 19,3% de femmes occupées dans les manufactures. Genre d'occupation, poterie. District de Wolstanton. 30,4% d'adultes occupés dans les manufactures. 726 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes. 727 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes. 13,9% de femmes occupées dans les manufactures. Genre d'occupation, poterie. Et enfin, pour 8 autres districts agricoles, 305 hommes morts pour affection des poumons sur 100 000 hommes et 340 femmes mortes pour affection des poumons sur 100 000 femmes. Fin de la note de bas de page. Donc, une enquête médicale officielle prouvera ensuite que, bien au contraire, ouvrez les guillemets, le chiffre moyen de mortalité dans les districts où se fabrique la soie est exceptionnellement élevé et dépasse même, pour la partie féminine de la population, celui des districts cotonniers du Lancashire. Fermez les guillemets. Malgré les protestations des inspecteurs renouvelées tous les 6 mois, le même privilège dure encore. Note de bas de page. On sait avec quelle répugnance les libres échangistes entre guillemets anglais renoncèrent aux droits protecteurs des manufactures de soie. Le service que leur rendait la protection contre l'importation française leur rend maintenant le manque de protection pour les enfants employés dans leurs fabriques. Fin de la note de bas de page. Donc, malgré les protestations des inspecteurs renouvelées tous les 6 mois, le même privilège dure encore. La loi de 1850 ne convertit que pour, ouvrez les guillemets, les adolescents et les femmes, fermez les guillemets, la période de 15 heures de 5h30 du matin à 8h30 du soir, en une période de 12 heures de 6h du matin à 6h du soir. Elle n'améliora en rien la condition des enfants qui pouvaient toujours être employés une demi-heure avant le commencement et 2h30 après la fin de cette période, bien que la durée totale de leur travail ne dût pas dépasser 6h30. Pendant la discussion de la loi, les inspecteurs de fabrique présentaient au Parlement une statistique des abus infâmes auxquels donnait lieu cette anomalie. Mais tout fut inutile. L'intention secrète cachée au fond de ces manœuvres était, en mettant en jeu les enfants, de faire remonter à 15 heures pendant les années de prospérité la journée de travail des ouvriers adultes. L'expérience des 3 années suivantes fit voir qu'une semblable tentative échouerait contre la résistance de ces derniers. Note de bas de page, Report Estera, for 30 avril 1853, page 31, fin de la note de bas de page. La loi de 1850 fut donc complétée en 1853 par la défense, ouvrez les guillemets, d'employer les enfants le matin avant et le soir après les adolescents et les femmes, fermez les guillemets. À partir de ce moment, la loi de 1850 régla, à peu d'exceptions près, la journée de travail de tous les ouvriers dans les branches d'industrie qui lui étaient soumises. Note de bas de page. Pendant les années de la plus haute prospérité pour l'industrie cotonnière anglaise, 1859 et 1860, quelques fabricants essayèrent, en offrant des salaires plus élevés pour le temps de travail extra, de déterminer les fileurs adultes, etc., à accepter une prolongation de la journée. Ceux-ci mirent fin à toute tentative de ce genre par un mémoire adressé aux fabricants, dans lequel il est dit entre autres, ouvrez les guillemets. Pour dire toute la vérité, notre vie nous est à charge, et, tant que nous serons enchaînés à la fabrique presque 2 jours de plus, 20 heures entre parenthèses par semaine, que les autres ouvriers, nous nous sentirons comme des ilotes dans le pays, et nous nous reprocherons d'éterniser un système qui est une cause de dépérissement moral et physique pour nous et notre race. 3 petits points. Nous vous avertissons donc respectueusement qu'à partir du premier jour de la nouvelle année, nous ne travaillerons plus une seule minute au-delà de 60 heures par semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, déduction faite des pauses légales de 1h30. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, report, etc., for 30 avril 1860, page 30, fermez la parenthèse, fin de la nouvelle. La libre concurrence. À partir de ce moment, la loi de 1850 régla, à peu d'exceptions près, la journée de travail de tous les ouvriers dans les branches d'industrie qui lui étaient soumises. Depuis la publication du premier Factory Act, il s'était écoulé 1/2 siècle. Note de bas de page. sur les moyens que fournit la rédaction de cette loi pour sa propre violation, compulser le rapport parlementaire, ouvre les guillemets, Factory Regulations Act, ferme les guillemets, 6 août 1859, entre parenthèses. Et dans ce rapport, les observations de Leonard Horner, ouvre les guillemets, Suggestions for amending the Factory Acts to enable the inspectors to prevent illegal working now become very prevalent. Fermez les guillemets. Fin de la note de bas de page. Donc, depuis la publication du premier Factory Act, il s'était écoulé un demi-siècle. La législation manufacturière sorti pour la première fois de sa sphère primitive par le Printworks Act de 1845, ouvrez la parenthèse, loi concernant les fabriques de cotons imprimés, fermez la parenthèse. Le déplaisir avec lequel le capital accepta cette nouvelle « extravagance » entre guillemets, perce à chaque ligne de la loi. Elle restreint la journée de travail pour enfants et pour femmes à 16 heures, comprise entre 6 heures du matin et 10 heures du soir, sans aucune interruption légale pour les repas. Elle permet de faire travailler les ouvriers mâles au-dessus de 13 ans, tout le jour et toute la nuit, à volonté. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Des enfants de 8 ans et d'autres plus âgés ont été réellement exténués de travail dans mon district, de 6 heures du matin à 9 heures du soir, pendant le dernier semestre de l'année 1857. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, report, etc., for 31 octobre 1857, page 39, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, elle permet de faire travailler les ouvriers mâles au-dessus de 13 ans, tout le jour et toute la nuit, à volonté. C'est un avortement parlementaire. Note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Il est admis que le Printworks Act, entre guillemets, est un avortement pour ce qui regarde soit ses règlements protecteurs, soit ses règlements sur l'éducation. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, report, etc., for 31 octobre 1862, page 62, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, c'est un avortement parlementaire. Néanmoins, par la victoire dans les grandes branches d'industrie, qui sont la création propre du mode de production moderne, le principe avait définitivement triomphé. Leur développement merveilleux, de 1853 à 1860, marchant de pair avec la renaissance physique et morale des travailleurs, frappa les yeux des moins clairvoyants. Les fabricants eux-mêmes, auxquels la limitation légale et les règlements de la journée de travail avaient été arrachés lambeau par une guerre civile d'un demi-siècle, firent ressortir avec ostentation le contraste qui existait entre les branches d'exploitation encore libres, entre guillemets, et les établissements soumis à la loi. Note de bas de page. Ainsi, par exemple, B. E. Potter, dans une lettre adressée au Times du 24 mars 1863. Le Times lui rafraîchit la mémoire et lui rappelle la révolte des fabricants contre la loi des 10 heures. Fin de la note de bas de page. Donc, les fabricants eux-mêmes, auxquels la limitation légale et les règlements de la journée de travail avaient été arrachés lambeau, par une guerre civile d'un demi-siècle, firent ressortir avec ostentation le contraste qui existait entre les branches d'exploitation encore « libres » entre guillemets et les établissements soumis à la loi. Les pharisiens de ouvrez les guillemets et l'économie politique fermez les guillemets se mirent à proclamer que la découverte nouvelle et caractéristique de leur science entre guillemets était d'avoir reconnu la nécessité d'une limitation légale de la journée de travail. Note de bas de page. Entre autres, M. W. Newmarch, collaborateur et éditeur de « l'histoire des prix » entre guillemets de Took. Est-ce donc un progrès scientifique que de faire de lâches concessions à l'opinion publique? Fin de la note de bas de page. Donc, les pharisiens de l'économie politique, entre guillemets, se mirent à proclamer que la découverte nouvelle et caractéristique de leur science, entre guillemets, était d'avoir reconnu la nécessité d'une limitation légale de la journée de travail. On comprend facilement que lorsque les manias de l'industrie se furent soumises à ce qu'ils ne pouvaient empêcher et se furent même réconciliées avec les résultats acquis, la force de résistance du capital faiblit graduellement, tandis que la force d'attaque de la classe ouvrière grandit avec le nombre de ses alliés dans les couches de la société qui n'avaient dans la lutte aucun intérêt immédiat. De là, comparativement, des progrès rapides depuis 1850. Les teintureries et les blanchisseries. Note de bas de page. La loi concernant les blanchisseries et les teintureries, publiée en 1860, arrête que la journée de travail sera réduite provisoirement à 12 heures le 1er août 1861 et à 10 heures définitivement le 1er août 1862, c'est-à-dire 10h30 pour les jours ordinaires et 7h30 pour les samedis. Or, lorsqu'arriva la fatale année 1862, la même vieille farce se renouvela. Messieurs les fabricants adressèrent au Parlement pétition sur pétition pour obtenir qu'il leur fût permis, encore une petite année, pas davantage, de faire travailler 12 heures les adolescents et les femmes, 3 points. Dans la situation actuelle, disaient-ils, ouvrez la parenthèse, pendant la crise cotonnière, fermez la parenthèse, ce serait un grand avantage pour les ouvriers si on leur permettait de travailler 12 heures par jour et d'obtenir ainsi le plus fort salaire possible, 3 points. La Chambre des communes était déjà sur le point d'adopter un bill dans ce sens. Mais l'agitation ouvrière dans les blanchisseries de l'Écosse l'arrêta. Ouvrez la parenthèse, Reports, etc., for 31 octobre 1862, page 14-15, fermez la parenthèse. Battu par les ouvriers, au nom desquels il prétendait parler, le capital, empruntant les besicles des juristes, découvrit que la loi de 1860, comme toutes les lois du Parlement, pour la protection du travail, entre guillemets, étaient rédigées en termes équivoques qui lui donnaient un prétexte d'exclure de la protection de la loi les « calandreurs et les finisseurs », entre guillemets, « finishers », entre parenthèses. La juridiction anglaise, toujours au service du capital, sanctionna la chicanerie par un arrêt de la Cour des plaids communs, « common pleas », entre parenthèses. Ouvrez les guillemets. Cet arrêt souleva un grand mécontentement parmi les ouvriers et il est très regrettable que les intentions manifestes de la législation soient éludées sous prétexte d'une définition de mots défectueuse. Fermez les guillemets. L'Occide, page 18, entre parenthèses, fin de la note de bas de page. Donc, les teintureries et les blanchisseries furent soumises en 1860, les fabriques de dentelles et les bonneteries en 1861, à la loi sur les fabriques de 1850. À la suite du premier rapport de la « commission des enfants », entre guillemets, les manufactures de toute espèce d'articles d'argile, ouvrez la parenthèse, non pas seulement les poteries, fermez la parenthèse, partagèrent le même sort, ainsi que les fabriques d'allumettes chimiques, de capsules, de cartouches, de tapis, et un grand nombre de procédés industriels compris sous le nom de « finishing », entre guillemets. Ouvrez la parenthèse. Dernière après, fermez la parenthèse. En 1863, les blanchisseries en plein air, note de bas de page. Les « blanchisseurs en plein air », entre guillemets, s'étaient dérobés à la loi de 1860 sur les blanchisseries, en déclarant faussement qu'ils ne faisaient point travailler de femmes la nuit. Leur mensonge fut découvert par les inspecteurs de fabrique, et en même temps, à la lecture des pétitions ouvrières, le Parlement vit s'évanouir toutes les sensations de fraîcheur qu'ils éprouvaient à l'idée d'une blanchisserie en plein air, entre guillemets. Dans cette blanchisserie aérienne, on emploie des chambres à sécher de 90 à 100 degrés Fahrenheit, dans lesquelles travaillent principalement des jeunes filles. Cooling, entre guillemets, rafraîchissement entre parenthèses, tel est le terme technique qu'elles emploient pour leur sortie de temps à autre du séchoir. 15 jeunes filles dans les séchoirs, chaleur de 80 à 90 degrés pour la toile, de 100 degrés et plus pour la batiste, cambrics entre parenthèses. 12 jeunes filles repassent dans une petite chambre de 10 pieds carrés environ, chauffée par un poêle complètement fermé. Elles se tiennent tout autour de ce poêle qui rayonne une chaleur énorme et sèche rapidement la batiste pour les repasseuses. Le nombre des heures de travail de « ces bras » entre guillemets est illimité. Quand il y a de l'ouvrage, elles travaillent jusqu'à 9 heures du soir ou jusqu'à minuit plusieurs jours de suite. Ouvrez la parenthèse, Report Estera, Fort 31 octobre 1862, page 56, fermez la parenthèse. Un médecin fait cette déclaration, ouvrez les guillemets. Il n'y a point d'heure fixe pour le rafraîchissement, mais quand la température est insoutenable ou que la sueur commence à salir les mains des ouvrières, on leur permet de sortir 2 minutes, 3 petits points. Mon expérience dans le traitement des maladies de ces ouvrières me force à constater que leur état de santé est fort au-dessous de celui des ouvrières en coton. Ouvrez la parenthèse, et le Capital, dans sa pétition au Parlement, les avait dépeintes comme plus roses et plus joufflues que les flamandes de Rubens, fermez la parenthèse. Leurs maladies principales sont la phtisie, la bronchite, les affections de l'utérus, l'hystérie sous sa forme la plus horrible et le rhumatisme. Elles proviennent toutes, selon moi, de l'atmosphère surchauffée de leur chambre de travail et du manque de vêtements convenables qui puissent les protéger quand elles sortent dans les mois d'hiver contre l'air froid et humide, fermez les guillemets, l'Occite page 56-57 entre parenthèses. Les inspecteurs de fabrique remarquent, à propos de la loi arrachée ensuite en 1863, à ces joviaux blanchisseurs en plein air, ouvrez les guillemets. Cette loi non seulement n'accorde pas aux ouvriers la protection qu'elle semble accorder, mais elle est formulée de telle sorte que sa protection n'est exigible que lorsqu'on surprend en flagrant délit de travail, après 8 heures du soir, des femmes et des enfants. Et même dans ce cas, la méthode prescrite pour faire la preuve a des clauses telles qu'il est à peine possible de sévir, fermez les guillemets, l'Occite page 52, entre parenthèses. Ouvrez les guillemets. Comme loi se proposant un but humain et éducateur, elle est complètement manquée. Car enfin, on ne dira pas qu'il est humain d'autoriser des femmes et des enfants ou, ce qui revient au même, de les forcer à travailler 14 heures par jour et peut-être encore plus longtemps, avec ou sans repos, comme cela se rencontre sans considération d'âge ni de sexe et sans égard pour les habitudes sociales des familles voisines des blanchisseries. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse, reports, etc. Fort 30 avril 1863, page 40, fermez la parenthèse, fin de la note de bas de page. Donc, en 1863, les blanchisseries en plein air et les boulangeries furent soumises également à 2 lois particulières, dont la première défend le travail de nuit, ouvrez la parenthèse, de 8 heures du soir à 6 heures du matin, fermez la parenthèse, pour enfants, femmes et adolescents, et la seconde, l'emploi de garçons boulangers au-dessous de 18 ans, entre 9 heures du soir et 5 heures du matin. Nous reviendrons plus tard sur les propositions ultérieures de la même commission qui, à l'exception de l'agriculture, des mines et des transports, menace de priver de leur « liberté » entre guillemets toutes les branches importantes de l'industrie anglaise. Note de bas de page. Depuis 1866, à l'époque à laquelle j'écrivais ceci, il s'est opéré une nouvelle réaction. Les capitalistes, dans les branches d'industrie menacées d'être soumises à la législation des fabriques, ont employé toute leur influence parlementaire pour soutenir leur « droit de citoyen » entre guillemets à l'exploitation illimitée de la force de travail. Ils ont trouvé naturellement, dans le ministère libéral Gladstone, des serviteurs de bonne volonté. Fin de la note de bas de page. Donc, nous reviendrons plus tard sur les propositions ultérieures de la même commission qui, à l'exception de l'agriculture, des mines et des transports, menacent de priver de leur « liberté » entre guillemets toutes les branches importantes de l'industrie anglaise.